aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous et Kabadou en votre compagnie. Il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du mercredi 31 octobre. Voici les titres. Au Cameroun, un missionnaire américain tué près de Bamenda. Au Burkina Faso, 4 ans après l'insurrection contre Blaise Compaoré, certains souhaitent son retour. Le chef rebelle Riek Machar à Juba après 2 ans d'absence pour la signature d'un nouvel accord de paix. Au Pakistan, la Cour suprême acquitte Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique. La Côte d'Ivoire reçoit 3,5 milliards de francs CFA de la Corée du Sud pour le raccordement à l'eau potable à Abidjan. Et dans les sports, Neymar, le footballeur brésilien, encourt jusqu'à 6 ans de prison dans une affaire de corruption. Mais tout d'abord, le journal. Le missionnaire américain tué par balle hier en zone anglophone du Cameroun a été la cible de terroristes lors d'une tentative d'attaque contre une brigade de gendarmerie et une zone universitaire, a affirmé ce mercredi le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo. Nani Talani.
Charles Truman Wesco, missionnaire américain de 44 ans, se trouvait à bord de son véhicule en compagnie de son épouse, de son fils et de son chauffeur, lorsqu'il a essuyé hier matin un tir en provenance des terroristes embusqués, a écrit M. Betty Assomo dans un communiqué lu à la radio d'État. Touché à la tempe, l'Américain a succombé à ses blessures à l'hôpital de Bamenda. M. Betty Assomo assure que 4 des terroristes présumés soupçonnés du meurtre ont été tués et plusieurs autres blessés pendant l'intervention des forces de défense et de sécurité. 4 fusils de calibre 12 ont été récupérés. Un étudiant et un militaire ont également été blessés lors des échanges de tirs. Le ministre de la Défense a aussi mis en garde les étrangers allant dans les zones de conflit. Il leur a recommandé d'avertir les autorités afin de bénéficier d'une sécurité maximale. Les militants des séparatistes ont toutefois réfuté les affirmations du ministre, accusant l'armée camerounaise de la mort du missionnaire américain.
Au Nigeria, le bilan de 2 jours d'accrochage à Abuja, lundi et mardi, entre les forces de sécurité et des manifestants chiites réclamant la libération d'Ibrahim Zakzaki, le leader de l'IMN, le mouvement islamique du Nigeria, emprisonné depuis décembre 2015, atteint maintenant 42 morts. C'est ce qu'annonce l'agence Reuters, citant Ibrahim Moussa, un porte-parole de l'IMN. Au Gabon, une télévision privée du Cameroun qui avait annoncé la mort du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite, a été suspendu pour 6 mois au Gabon par la Haute Autorité de la Communication. Inexacte et trompeuse, l'annonce de la mort du président Bongo par Vision 4 a porté atteinte à l'unité nationale, la cohésion sociale et l'ordre public, selon le AHC du dans un communiqué. Par ailleurs, un réseau de passeurs de migrants a été démantelé au Gabon et 55 immigrants clandestins arrêtés, a annoncé le ministère de l'Intérieur gabonais dans un communiqué. Parmi les interpellés figurent une majorité de Nigérians, mais aussi des Togolais, Bininois, Tchadiens et un Ghanéen et un Camerounais. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi à l'unanimité une résolution appelant à intensifier la lutte contre l'épidémie Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo à quelques semaines des élections qui doivent se tenir normalement le 23 décembre prochain. L'ONU demande aux groupes armés de cesser leur activité pour permettre à l'aide humanitaire et sanitaire de parvenir aux populations civiles dans les zones touchées par l'épidémie. Le texte souligne aussi la nécessité pour la MONUSCO et l'OMS de se coordonner avec le gouvernement congolais. Toujours en République démocratique du Congo, il y a quelques jours, des milliers de manifestants se mobilisaient à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays pour protester contre les machines à voter prévues pour le scrutin du 25 décembre prochain. La machine en question a été fabriquée par une société sud-coréenne, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. En Mauritanie, un nouveau gouvernement a été 24 heures après la désignation d'un nouveau Premier ministre. Les ministres régaliens justice, affaires étrangères et intérieures restent inchangés. On note que le général Ghazanawi, chef d'état-major général des armées, devient ministre de la Défense nationale. La justice internationale saisie après le massacre de 6 villageois en Guinée. Les survivants d'un massacre en 2012 en Guinée ont porté plainte dans leur pays contre une société minière qu'elle accuse de complicité, puis devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a participé ce mardi à Juba à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix au Sud-Soudan. Il n'était pas revenu dans la capitale depuis sa fuite, précipitée en juillet 2016 après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. Nathalie Barge.
Arrivé à Juba dans la matinée en provenance de Khartoum, Riek Machar a assisté à la cérémonie aux côtés du président Salva Kiir. Les deux rivaux ont signé un accord de paix le 12 septembre à Addis Abeba, censé mettre fin à la guerre civile et au terme duquel le chef rebelle doit retrouver son ancien poste de vice-président. Les présidents soudanais Omar el-Béchir, somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, ougandais Yoweri Museveni et la nouvelle présidente éthiopienne Saleh Work Zewde étaient présents à Juba. La cérémonie s'est déroulée au mausolée John Garang, chef de la guerre d'indépendance contre le Soudan, devant des milliers de spectateurs. L'on ignore si Riek Machar compte rester à Juba au-delà de la cérémonie, l'un de ses porte-parole, Lampol Gabriel, ayant fait part de ses craintes concernant sa sécurité.
En Tanzanie, un député de l'opposition a été arrêté à Dar es Salaam après avoir affirmé dimanche qu'une centaine de personnes avaient été tuées lors de récents affrontements entre éleveurs et forces de l'ordre dans l'ouest du pays, a annoncé son parti.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a émis des doutes sur la volonté de l'Arabie Saoudite de coopérer sincèrement dans l'enquête sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul. Un haut responsable turc parlant sous couvert d'anonymat a affirmé que les officiels saoudiens se montraient surtout soucieux d'obtenir les preuves que nous avons contre les auteurs du meurtre. « Nous n'avons pas eu l'impression qu'ils ont hâte de coopérer sincèrement dans l'enquête », a-t-il ajouté. Ces déclarations interviennent alors même que le procureur général saoudien se trouve en Turquie depuis dimanche dans le cadre de cette enquête. Le corps du journaliste n'a pas été retrouvé. Une nouvelle caravane de migrants, environ 2000, est partie aujourd'hui du nord de la capitale du Salvador, malgré le début d'une opération aux États-Unis qui mobilise des troupes à la frontière. Claire Morin-Gibourg.
Cette nouvelle caravane est séparée en deux grands groupes. Hommes et femmes marchent, certains roulent leurs poussettes, d'autres ont leurs enfants sur leurs épaules. Certains brandissent des drapeaux salvadoriens alors que des automobilistes qui passent à côté d'eux klaxonnent pour les encourager. Dimanche, 300 personnes avaient quitté San Salvador dans les mêmes conditions. La première caravane de 3500 personnes qui a quitté le Honduras mi-octobre se trouve désormais dans le sud du Mexique. Ces arrivées massives de migrants sont devenues un enjeu majeur pour les élections de mi-mandat le 6 novembre. L'armée américaine a annoncé l'envoi de plus de 5
Tensions sociales au Pakistan qui font suite à la décision de la Cour suprême du pays d'acquitter en appel la chrétienne Asia Bibi. Elle avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010. Cet acquittement suscite la fureur des milieux religieux qui sont immédiatement descendus dans la rue. Bagasikoura.
Elle a été acquittée de toutes les accusations, a déclaré le juge Saqib Nisar lors de l'énoncé du verdict mercredi matin, ajoutant que Mme Bibi, qui se trouve actuellement incarcérée dans une prison à Multan, dans le centre du pays, allait être libérée immédiatement. Les fondamentalistes, en revanche, se sont insurgés contre ce verdict et sont descendus par milliers dans la rue en différents endroits du pays, bloquant des routes, brûlant des pneus, criant des menaces et slogans hostiles au juge et à Asia Bibi. Ils se sont pour la plupart dispersés en fin de journée après avoir annoncé de nouvelles manifestations pour vendredi. Quelques centaines d'entre eux continuaient cependant de bloquer un échangeur autoroutier près d'Islamabad. Dès le matin, la capitale a été placée sous haute sécurité avec des barrages sur les routes, notamment à proximité des quartiers où vivent les magistrats et la communauté diplomatique. Certaines écoles ont été fermées. Malgré cette annonce, en pratique, la libération de Madame Bibi pourrait prendre plusieurs jours en raison de procédures administratives, a indiqué son avocat.
En Inde, la justice a condamné 16 policiers à la prison à vie pour avoir massacré des dizaines de musulmans en 1987 durant une période de troubles intercommunautaires qui secouaient le nord du pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Burkina Faso lance officiellement les travaux de construction de l'autoroute de contournement nord et sud de Ouagadougou pour un montant d'environ 181 milliards de francs CFA. Longue de 125 km, cette autoroute va traverser trois régions et toucher plus de 9 communes et arrondissements. Ce projet sera exécuté par le groupe EBOMAF dans le cadre d'un partenariat public-privé. La Côte d'Ivoire reçoit 3,5 milliards de francs CFA de la Corée du Sud pour le raccordement à l'eau potable dans le district d'Abidjan. Selon le ministre ivoirien de l'hydraulique, Laurent Tchagba, ce projet permettra à 10 000 ménages, soit 70 000 personnes défavorisées de la commune de Koumassi, d'être connectées au réseau d'eau publique. Chaque maison n'aura à payer que 10 000 francs CFA au lieu de 167 000 francs CFA pour se voir raccorder au réseau d'eau potable. La première phase de ce projet, qui a eu lieu entre 2014 et 2016, a permis de financer 8 810 branchements dans les communes de Yopougon, Abobo et Koumassi. Enfin, au Zimbabwe, le gouvernement veut mobiliser 700 millions de dollars grâce à l'introduction d'une taxe sur les transactions électroniques. Les transferts d'argent via téléphone mobile devraient se voir appliquer une taxe de 2%. Cette stratégie d'optimisation des recettes fiscales devrait permettre à l'État zimbabwéen de mobiliser environ 4,3 milliards de dollars sur les 5,7 milliards de revenus prévus pour l'année budgétaire en cours.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Le Ghana passe à la vitesse supérieure dans la préparation de la CAN.
La fédération a annoncé la tenue de trois gros matchs amicaux internationaux. Le premier opposera les Black Queens à la Zambie le 3 novembre avant un déplacement au Kenya 4 jours plus tard pour y affronter les Arambi Starlets. Enfin, le dernier match mettra aux prises le Ghana à l'Afrique du Sud à Accra quelques jours avant l'entame de la compétition qui va se dérouler du 17 novembre au 1er décembre prochain. Le Ghana, pays hôte, figure dans le groupe A avec l'Algérie, le Mali et le Cameroun. Le groupe B est composé du Nigeria tenant du titre, du Kenya, de la Zambie et des Bayana d'Afrique du Sud.
Toujours au Ghana, l'ex-président de la fédération a été sanctionné par la FIFA.
Et oui, Kwesi Nyantakyi a été interdit à vie de toute activité liée au football par la justice interne de la FIFA et devra s'acquitter d'une amende d'environ 440 000 euros pour des faits de corruption. L'ancien patron du foot ghanéen a dû démissionner début juin après les révélations explosives d'un documentaire d'investigation, le filmant en pleine négociation avec des investisseurs potentiels à qui il faisait miroiter de juteux contrats avec le gouvernement ghanéen en échange de cadeaux de plusieurs millions de dollars.
En Europe, Neymar encourt jusqu'à 6 ans de prison.
Oui, le footballeur brésilien, ses parents, le président du FC Barcelone, Josef Maria Bartomeu, sont en attente de procès en Espagne pour un présumé délit de corruption lors du recrutement de Neymar par le Barça en 2013. Bartomeu, Rossell et le Barça devront en outre répondre du délit d'escroquerie, tout comme l'ancien club de Neymar au Brésil, Santos, et son ex-président, Odilio Rodriguez. Le club catalan a officiellement chiffré le transfert du prodige brésilien à 57,1 millions d'euros, répartis en 40 millions pour la famille de Neymar et 17,1 millions pour Santos, mais la justice espagnole a réévalué le transfert à au moins 83 millions d'euros.
NBA, enfin le réveil pour Cleveland.
Et oui, il aura fallu attendre le 7e match de l'ère post-LeBron James pour renouer avec le succès. Et c'est Atlanta qui en a fait les frais, battu 136-114 par les Cleveland Cavaliers. Dans les autres matchs, les Rockets de Houston ont confirmé leur début de saison apathique, une victoire 5 défaites, avec une nouvelle débâcle, cette fois-ci contre Portland 104-85. Les Philadelphia Sixers de Joel Embiid se sont inclinés 129-112, malgré les 31 points du Camerounais.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce matin à Juba pour participer à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix signé le 12 septembre à Addis Abeba et destiné à mettre fin à presque 5 années de guerre civile. Le président soudanais Omar El-Béchir, la nouvelle présidente éthiopienne et d'autres délégations de haut niveau ont pris part à cette cérémonie. Au terme de cet accord, M. Bachar doit retrouver son ancien poste de vice-président. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris le directeur de Soudan Tribune, Mohamed Nagui.
Qu'il s'agissait avant toute chose de faire une célébration nationale. Et Machar, à ce titre, il a été convié, lui et le reste des dirigeants de l'opposition, qui sont, pour la majorité, actuellement, ils se trouvent à Khartoum. S'agissant de Riek Machar, il faut bien que se le dise, lui, il est, d'après les accords de paix et tout ce qui a été convenu, il doit rester à Khartoum pour environ quelques mois, le temps que le comité de pré-transition finisse ses travaux pour préparer la période de transition. Donc, 30 mois pour l'application des accords de paix.
Donc, M. Machar ne va pas rester à Djouba après la cérémonie.
Pour l'instant, ils participent uniquement, doivent rentrer à Khartoum. C'est donc d'ici quelques mois que Riek Machar va officiellement rentrer dans le sud Soudan en tant que premier vice-président. Voilà.
Riek Machar n'avait plus remis les pieds à Djouba depuis juillet 2016. Est-ce que sa présence marque un bon signe de paix?
Sa présence en soi-même était très significative et très attendue par beaucoup, parce que, comme vous le savez, la communauté internationale, les pays donateurs de la Troïka, et tout le monde a exigé du président Salva Kiir et de Riek Machar d'apparaître ensemble, de faire des signes d'apaisement, d'appel à l'unité nationale, à la tolérance, au pardon. Et donc, à ce titre-là, et lui, il devait y être là aujourd'hui.
Est-ce que faire travailler ensemble M. Kiir et Machar ne sera pas une mince affaire?
Ils n'ont pas le choix. Ils savent que c'est vrai, les malheurs de ce pays, pour beaucoup, ils sont responsables. D'ailleurs, tous les deux, ils ont reconnu leur tort et ils ont demandé pardon. Ils ont juré, j'ose dire, de faire de tout leur possible pour que ça réussisse cette fois et que permettre aux gens de vivre en paix, parce qu'il faut savoir que les Sud-Soudanais n'ont pas connu, depuis très longtemps, ils n'ont pas connu la vraie paix, ils n'ont pas su vivre comme tout le monde.
La coopération entre Kiir et Machar a toujours abouti au chaos et au conflit. Est-ce que tout ce que vous venez de citer là, c'est suffisant pour éviter un autre conflit?
Il faut en tout cas maintenir la pression régionale et internationale sur les parties de l'accord de paix qu'ils viennent de signer. L'application de cet accord a besoin de beaucoup d'argent. Et la communauté internationale, il a clairement dit qu'il ne va pas soutenir un accord si jamais, si les parties sud-soudanaises ne se montrent pas à la hauteur des engagements pris.
Mohamed Nagui, directeur de Soudan Tribune.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Burkina Faso commémore aujourd'hui le 4e anniversaire de l'insurrection populaire ayant emporté le régime du président Compaoré. À cette occasion, le président du Faso a déposé ce matin une gerbe de fleurs au monument aux héros nationaux pour un hommage aux martyrs rendus en rang dispersé avec des victimes et ayants droit qui continuent d'attendre justice et réparation. Des précisions à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Ce sont plusieurs associations de la société civile et des mouvements des droits de l'homme qui ont donné très tôt ce matin le ton de cette commémoration à travers une marche meeting de contestation. La coalition a boudé la commémoration officielle et lui a préféré la place de la nation pour ne pas cautionner l'action du gouvernement, explique Elita Arpaga. Il est le responsable de la coordination des comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire de la ville de Ouagadougou.
C'est pas la bonne manière de se rappeler de ceux qui sont tombés pour qu'il y ait la liberté, pour qu'il y ait la démocratie au Burkina Faso. La bonne manière, c'est effectivement répondre aux préoccupations de ces gens-là en matière de justice, en matière de tout ce que le peuple burkinabé a revendiqué pendant l'insurrection populaire. Les commémorations folkloriques, là, nous ne sommes pas dedans.
Proche également de ne pas s'associer au cérémonial officiel, les familles des martyrs qui ont finalement pris part à l'issue d'ultime tractation au cours de la nuit dernière, précise Paula Boupeka Victor, président de l'Union des familles des martyrs.
Au début, les choses n'avaient pas évolué, donc c'est pour cela que nous avons adressé une lettre au gouvernement pour dire qu'on n'allait pas participer. Mais nous, si on prend le 29 octobre, nous avons eu des réunions, donc on s'est mis d'accord. Le président Roch Marc Issa Kabore lui-même, il prend tout en charge et il a promis de régler tous les problèmes avant la fin de l'année.
C'est ce même espoir qui a prévalu à la présence des représentants des blessés, soutiendra Man Ouedraogo, président de l'association des blessés de l'insurrection populaire et du putsch manqué.
Nous sommes en discussion avec le gouvernement pour les différents soins des blessés et que nous puissions avoir des mesures d'accompagnement pour ceux qui ont perdu leur emploi depuis les élections et qui n'en ont plus jamais eu. Présentement, il y a 532 blessés du côté insurrectionnel et du coup d'État manqué.
Après avoir déposé ce matin une gerbe de fleurs à mémoire aux martyrs, le président du Faso, qui promet respecter les engagements pris, a désapprouvé le désintérêt manifesté par une partie des Burkinabés. Il faut savoir dépasser les divergences lorsque les questions touchent à l'intérêt national, indique Roch Kabore.
Les dates historiques de notre pays, c'est très important. La cohésion, c'est très important, quels que soient les points de vue divergents que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, c'est un jour de reconnaissance vis-à-vis de ces héros. C'est un jour également d'introspection. Il est évident quand on gère un pays que tout ne peut pas se réaliser en une fois, comme sur la baguette magique. Les priorités des Burkinabés sont nombreuses et dans tous les domaines. Et vous savez très bien que si nous voulons réussir véritablement à faire en sorte que nous avancions, c'est si nous travaillons ensemble en ayant conscience que chacun, dans son poste de responsabilité, a quelque chose à porter au pays.
Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Il y a quelques jours, des milliers de manifestants se mobilisaient à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes de la République démocratique du Congo pour protester contre les machines à voter prévues pour le scrutin du 23 décembre prochain. La machine en question a été fabriquée par la société sud-coréenne Miryu Systems. Notre correspondant à Séoul a voulu en savoir plus. Il nous a livré ce reportage. Le récit est de Salwa Jafari.
Machine à voter, machine à tricher, le slogan résonne chez beaucoup de Congolais. Ils sont nombreux à douter de l'efficacité de la nouvelle technologie qui doit permettre aux électeurs de choisir leur candidat et d'imprimer leur bulletin dans les bureaux de vote au scrutin présidentiel, législatif et provinciaux du 23 décembre prochain.
Pour ce moment, on n'en perd de rien. Mais quelquefois, les gens peuvent voler avec cette machine ici.
Et pourtant, la commission électorale a fait de son mieux pour convaincre. Principal argument, les machines accéléreraient le dépouillement du vote et le rendraient plus transparent.
Après les explications et l'assimilation des votes et la réponse aux différentes questions, on sent que la compréhension et l'acceptation de la machine à voter ne posent plus de problème.
Les partis d'opposition et les évêques catholiques ont tout de même demandé que des experts internationaux inspectent les machines, craignant que ces appareils ne permettent une fraude. Miryu Systems, situé juste au sud de la ville de Séoul, à Pangyo, a décliné la demande d'interview de VOA, mais a répondu à la controverse avec une déclaration aux médias locaux. L'inquiétude suscitée par les machines à voter découle de la non-compréhension de leur fonctionnement. Même avec l'introduction d'un système de vote électronique et de dépouillement du vote, un système de vote en papier est toujours en place. Le communiqué ajoute que cela renforcerait la fiabilité de l'élection en enregistrant les votes trois fois, sur un ordinateur à écran tactile, sur le serveur central et sur papier. Cependant, Seung-ju Kim, professeur de sécurité de l'informatique à l'Université de Corée, a confié à VOA que les machines de vote électronique, comme tout autre système informatique, pouvaient être compromises.
Même si vous sécurisez les données sur l'écran tactile, en serveur et en bulletin de vote, les entreprises ne peuvent pas contrôler le déroulement des élections et ne doivent donc pas promettre l'intégrité du vote.
Malgré tout, les responsables des élections sont convaincus qu'ils sont prêts à procéder aux élections de décembre, ce que beaucoup considèrent comme une étape cruciale pour mettre fin à l'instabilité politique dans un pays qui est sur le point de changer de leader après un règne de plus de 17 ans de Joseph Kabila.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
À moins d'une semaine des élections de mi-mandat, les Américains sont alarmés par le massacre survenu dans une synagogue de Pennsylvanie, mais aussi l'interception de plusieurs colis piégés envoyés à des leaders démocrates. Le scrutin du 6 novembre pourrait avoir un profond impact sur les deux dernières années du mandat du président Trump. Les précisions de Lionel Gaïma.
À Pittsburgh, en Pennsylvanie, c'est le recueillement en mémoire de victimes du massacre de la synagogue Tree of Life, un massacre dénoncé par le président Donald Trump.
Nous condamnons le mal historique de l'antisémitisme et toute autre forme de mal, et malheureusement, le mal vient sous plusieurs formes. Et nous devons nous unir comme un seul peuple américain.
Pour l'analyste John Haddad de la Brookings Institutions, un cercle de réflexion de Washington, la fusillade de Pittsburgh et l'inculpation de l'homme accusé d'avoir envoyé des colis piégés ont accru la tension dans la dernière ligne droite de la campagne électorale.
Le pays souffre du fait de cette série de circonstances qui, malheureusement, surviennent trop souvent aux États-Unis. Des actes de violence et d'agression d'Américains contre leurs propres compatriotes.
Parmi les voix appelant au calme, c'est de l'ancien vice-président Joe Biden.
Je sais que parfois, la colère, la haine, la méchanceté menacent de nous submerger. Et il revient à nos leaders de donner le ton, de baisser le ton et de redonner une certaine dignité à notre dialogue national.
Pour certains démocrates, les attaques partisanes du président Trump ont contribué à créer une atmosphère politique tendue. Et Navi rejette le porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.
Le premier réflexe des médias a été d'accuser le président Trump et de lui imputer la responsabilité de ses actes ridicules. C'est scandaleux que cela soit leur première réaction.
Pour sa part, le président Trump se dit déterminé à mener jusqu'au jour du scrutin une vigoureuse campagne pour les questions importantes pour ses partisans, comme l'immigration.
Le Parti démocrate encourage ouvertement des millions d'étrangers en situation illégale à violer nos lois et nos frontières et à mener notre pays à la faillite, ce qui est en train d'avoir lieu.
Les démocrates ont, de leur côté, concentré leur message électoral sur l'assurance maladie, mais le scrutin sera avant tout un référendum sur la présidence de Trump, souligne Jim Kessler, vice-président du cercle de réflexion Third Way, basé ici à Washington. On s'attend à ce que les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, une perspective périlleuse pour le président Trump, dans la mesure où ces démocrates pourraient alors bloquer toutes ses initiatives, ouvrir de nombreuses enquêtes et du coup compliquer ses chances de réélection en 2020.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elles ont lieu mardi prochain, même si le vote anticipé a déjà démarré. Elles concernent les deux chambres du Congrès américain et, comme d'habitude, se tiennent à la mi-mandat de chaque président du pays. Que faut-il savoir de ces élections ? Quels en sont les enjeux ? Que vont-elles signifier pour le président Donald Trump et pour son agenda, dont sa politique étrangère ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Dan Crawford. À la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme en notre compagnie. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.